Flavia Vargas, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation à venir répondre à un certain nombre de questions que je vais vous poser, bien sûr sur le cinéma brésilien. Ce cinéma brésilien que vous avez rencontré assez tôt et par rapport auquel vous avez développé une passion certaine.
Oui, oui, en fait, je suis passionnée depuis que je suis née, hein, parce que déjà, ça vient de mon père, qui est cinéphile. Donc, quand j'étais petite, il m'a menée au cinéma, toujours. Donc, pour moi, il n'y avait pas autre choix. Même que, comme peut-être vous savez, le cinéma, il y a eu une époque qu'il était un peu mort. Même comme ça, je ne pouvais pas faire autre chose.
Donc, vous vous êtes lancé dans un certain nombre de formations par rapport au cinéma.
Oui, au début, tout au début, à la place de faire les lycées normaux, j'avais choisi les lycées professionnels en publicité. C'était bien. J'ai appris beaucoup de choses, mais je savais que ce n'était pas les publicités mon truc. Mais mon rêve, c'était avec le montage du cinéma. Du coup, j'ai fait donc, déjà ça. Après, j'avais fait des formations pour utiliser la caméra, apprendre à faire le montage, etc. Et ensuite, j'étais à FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado, qui était la université de cinéma privée à São Paulo. C'était une université très reconnue, né, parce que donc à São Paulo il y avait deux, une publique et une privée. Normalement, né, à São Paulo, les universités publiques sont considérées les meilleures. Donc, c'est-à-dire que si tu arrives à finir tes études dans une université publique, c'est plus sûr que tu vas arriver à avoir un travail correct. Par contre, les cinémas sont un peu différents. Dans les cinémas, dans la EC, à l'université publique, c'était beaucoup théorique, beaucoup, beaucoup théorique, et c'est important aussi, bien sûr. Mais à FAAP, c'était beaucoup pratique. Donc, c'est là que tout a commencé. Du coup, j'ai rentré, je pense, en 92. Dans ma classe, on était 8 personnes, pas plus, parce que le cinéma était mort, il n'y avait pas de cinéma. Quand il y avait un film brésilien dans le cinéma, il fallait aller en courant, parce que ça allait durer un mois. Un mois, c'est déjà beaucoup. Vous me direz, une semaine, c'est plus réaliste, parce qu'il n'y avait pas. Mais c'était, en même temps, c'était trop bien, parce que là, dans ma classe, les 8 élèves, tout le monde travaille avec le cinéma jusqu'à aujourd'hui, justement, né, parce qu'il y avait plus de gens qui s'y formaient pour ça, donc on pouvait rentrer dans les marchés. Mais pour rentrer dans les marchés, tout le monde rentrait dans ce qu'on appelait de cinéma publicitaire. Mon truc était le montage, donc ça passait parce que j'ai appris à utiliser au début à Moviola, la table de montage, ensuite Avid et des autres choses. Et du coup, j'ai travaillé avec la post-production pendant 7 ans des publicités.
Parce que là, c'était davantage vos compétences techniques qui étaient recherchées que vos compétences de création.
Oui, oui, tout à fait. Mais moi, je ne savais pas. Moi, je ne connaissais pas. Parce que c'est vrai que dans l'université, on n'apprenait pas la post-production. On entendait parler, mais on ne vivait pas. Et du coup, comme c'était la porte d'entrée, et j'ai commencé à vivre ça, j'ai tombé complètement amoureuse. Je ne pouvais pas changer. Mais c'était un univers à part. On rentrait là-bas, on fermait la porte, il n'existait pas le monde dehors. Et c'était vrai, pendant 7 ans, j'ai travaillé samedi, dimanche, les soirs, n'importe quel moment, parce que c'était comme ça. Et c'est encore comme ça au Brésil. Après 7 ans que j'étais dans le cinéma publicitaire, les cinémas, les vrais cinémas, les histoires, les longs métrages, les documentaires, a commencé. C'est qu'on appelait la reprise du cinéma. Parce qu'il y avait des longs métrages. Mais il y avait, sans rigoler, il y avait quoi, 1, 2, 3 par an. Donc, c'était difficile. Mais une fois que tu travailles dans une maison de post-production et que c'était la plus importante de São Paulo, les films ne passaient pas là. Donc, de toute façon, tu étais en contact avec les cinémas.
Les réalisateurs.
Oui, parce qu'à l'époque, on tournait en bobine. C'était obligé de passer au laboratoire. y faire sa vie, né, laboratoire, étalonnage, après numérisation, etc. Donc, j'ai appris toutes les étapes de la post-production. Donc, j'étais prête. Né. Quand le cinéma a été repris, j'étais prête à travailler avec la post-production du cinéma.
Par rapport aux invités que j'ai, j'aime bien que de temps en temps, on clarifie un certain nombre de choses pour les spectateurs, parce que le spectateur dans une salle de cinéma reçoit un produit fini. Mais il n'imagine pas toujours le travail qu'il y a derrière. Or, cette étape de la post-production qui précède la sortie d'un film est quand même importante. Quels sont les moments par lesquels passe un film, que ce soit un documentaire, un film de fiction et tout ça, dans ce qu'on appelle la post-production?
En fait, ça peut commencer même avant le tournage, quand on fait des réunions de post-production. Parce que dans les scénarios, on peut localiser déjà les scènes qui vont avoir post-production. Donc, dans le jour de la tournage, on vient, né, et on va regarder un peu avec les photographes, avec les réalisateurs. On peut, tu sais qu'ils ont planifié pour voir si ça va marcher au moment de faire la post-production. Ou si, par exemple, je vais donner un exemple comme ça, on va dire que dans les scénarios, les jours, c'était un jour ensoleillé, mais les jours de la tournage n'étaient pas. Donc, il fallait trouver une solution, parce qu'on ne peut pas, comment dire, déplacer les jours. On peut, mais pas vraiment, parce qu'on paye tous les techniques, on paye tous les acteurs, on paye tout le monde pour être là ces jours-là.
Ça coûte cher.
Ça coûte cher. Sauf s'il y a plusieurs jours, etc. Et du coup, on était là pour étudier ensemble. Alors, on a ces problèmes, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse arriver à l'étalonnage, et dans l'étalonnage, chercher la lumière et montrer un jour ensoleillé, un exemple. Donc, on peut être là depuis le tournage et dans les réunions des post-production. Donc, on ne va pas vivre tout le temps comme ça, mais on peut commencer là-bas. Après, les étapes, né, aujourd'hui, c'est un peu différent. À l'époque, on avait la bobine. Donc, la bobine, il faut développer. Après, quand on développe la bobine, il faut pouvoir avoir ces images physiquement. Donc, on faisait les transferts dans un tape, en cassette. Après, on pouvait acquérir, faire la synchronisation. Donc, il y a déjà plusieurs processus, né, parce qu'il faut acquérir. Quand on va acquérir l'image, bien sûr que la tournage, elle n'a pas fait dans l'ordre du film. Bien sûr, elle a fait dans l'ordre des locations, des endroits.
Là, on retrouve le rôle du monteur.
Aussi, né, parce que avant les monteurs arrivés, né, il faut déjà, si on a un bon réalisateur, là, né, il va faire un bulletin pendant le tournage pour dire ça marche, ça ne marche pas. Donc on va acquérir que c'est que ça marche. On va perdre notre temps, notre énergie déjà avec les images que ça marche. Comme on a les scénarios, on va déjà mettre dans l'ordre. Donc parfois, il y a une scène qu'elle a filmée, je ne sais pas, 5-6 fois. Donc on va voir dans le montage initial les 5-6 fois, le monteur il va arriver, ça c'est déjà numérisé, c'est déjà dans l'ordre. Et donc, après, avec les orientations du réalisateur, il va choisir la scène qui convient.
Les meilleures reprises.
La meilleure reprise. Et après, au fur et à mesure qu'on fait le montage, on va envoyer les matériels avec qui travaille avec nous. C'est-à-dire qu'on va envoyer à la personne qui fait les sons, à la personne qui fait la musique, la personne qui fait les applications. Les applications, je veux dire, s'il n'y a pas les oiseaux dans l'image, il faut avoir les oiseaux. Né, on va envoyer aussi pour qu'il va faire. Donc, en même temps qu'on fait le montage, on est aussi en train de distribuer le montage, les morceaux de chaque montage à les techniciens qui vont travailler avec. Né, jusqu'à arriver à la fin, après, je ne sais pas, 6 mois, si c'est un long métrage, né, et que tout le monde est d'accord, c'est ça, c'est filmé là, on ne va plus changer, on a décidé, c'est bon. Né, on va travailler donc avec tous ces techniciens qui ont déjà travaillé avec, on va faire ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir la copie qu'on va voir au cinéma.
Définitive.
Définitive.
Oui.
Mais il y a donc les monteurs, les post-producteurs, la personne qui fait les sons, la personne qui fait le mixage, les musiciens, les personnes qui font les effets spéciaux. Donc il y a plusieurs gens dans l'équipe. Il faut penser aussi que derrière, aux techniciens, il y a les autres personnes qui travaillent avec.
Oui, oui.
Mais c'est beaucoup de gens.
Mais ça me paraissait important de profiter de votre expérience pour pouvoir bien resituer tous ces métiers de la post-production, parce que bien souvent, on utilise le terme post-production, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? C'est quand même vachement important, parce que c'est ça qui fait le film définitif.
Bien sûr.
Sous la responsabilité du réalisateur, mais c'est quand même ça qui va permettre au spectateur de voir la copie.
Oui, par exemple, quand j'ai fait des ateliers, etc., j'ai dit, les films, c'est pas qu'on prend de la caméra, on sort, il est prêt et on va aller voir. Il y a tout un processus derrière,
oui.
De la post-production, de la production et de la post-production. Ils sont étapes importantes, mais c'est vrai que même moi, comme je disais, j'avais un rêve. Mon rêve, c'était être monteuse. Mais je ne connaissais pas tout cet univers. Le problème est que quand on tombe dans cet univers, on ne veut plus sortir. On veut rester parce que c'est vraiment super.
Donc, on était à l'étape de votre parcours où pendant 7 ans, vous avez fait de la post-production.
Des publicités, parce qu'au début...
Deux publicités, voilà.
Oui.
Les étapes suivantes.
Donc, à partir de ces moments qui beaucoup de gens ont travaillé avec la publicité, comme on disait qu'on appelait des cinémas publicitaires, qu'on appelle des cinémas publicitaires, ça a commencé à venir en long métrage là, autre long métrage qui arrivait. Et j'ai fait la post-production de quelques projets, mais à la même époque, il y avait la première entreprise de post-production, de projection numérique.
Ah oui, parce qu'en
plus, à Saint-Paul, ouais.
En plus du contexte, de l'évolution du contexte que vous avez connu, qui a quand même, cantonné le cinéma dans la production très, très publicitaire et autres, il y a aussi eu cette étape du passage au numérique.
De la passage au numérique. Donc,
qui a changé beaucoup de choses.
Beaucoup de choses. Alors, déjà avec le montage. Donc, je me rappelle, j'étais déjà très contente d'apprendre la moviola. C'était déjà waouh. Et il y avait la polémique parce que A avait déjà arrivé. Né, et tous les monteurs disaient, ah non, A avait déjà n'est pas bon. Il y a beaucoup de problèmes techniques. La synchronisation, ça ne va pas du tout. Donc, il y avait une grande résistance à passage de la moviola, à table de montage, à édition numérique. Après, quand je suis allée dans cette entreprise, que c'était la première du projection numérique, la grande polémique, c'était l'image. Donc, il y avait beaucoup de photographes qui étaient contre. Donc, pour plusieurs raisons. C'était pas un problème de la projection. Il y avait beaucoup de choses, comme vous venez de dire, qu'on ne connaît pas dans la post-production. Mais une chose que c'est facile de comprendre, c'est que si on a la bobine et on doit passer sur la table d'étalonnage et qu'elle va être déchargée dans une cassette, elle est déjà numérique.
Oui.
Elle est déjà numérique. Et même qu'après tous les travaux de post-production, à la fin, sur la bobine, elle a passé, je ne sais pas si en France on appelle comme ça, mais on appelait intermédiation numérique. Donc, c'était une grande polémique, cet passage de la projection des bobines pour la projection numérique. Et aujourd'hui, on a les deux.
Je pense que ça a été un problème partout où on a voulu produire des films. Parce que c'est quand même une révolution importante. On passait du ciseau et de la colle. Hein,
c'est ça. Et c'est vraiment ça.
À l'électronique, là où les choses se faisaient par des ordinateurs, via des ordinateurs, des programmes spéciaux, des choses comme ça.
Oui.
Avec des outils qui ne sont pas aussi performants que ceux d'aujourd'hui, il faut dire.
Non, parce que c'était le début.
Tout à fait.
C'était le début. Mais Wavij, je suis amoureuse de Wavij depuis le début. J'utilise beaucoup Wavij, Final Cut. Mais bon, peut-être parce que c'était les premières, donc quand on faisait la synchronisation, les sons qu'on on écoutait, tout ça me fait du bien, juste d'écouter, mais ça me...
Oui, les outils que vous citez là, ce sont des outils de montage numérique.
Mm-hmm.
Voilà.
Oui, après, dans la maison de post-production, quand on sortait de la montage qu'on appelait offline, parce que c'était juste avec l'image sans rien, parce qu'aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas besoin comme avant. Mais avant, on n'avait pas beaucoup de place dans le HD, le disque dur, pardon, les disques durs. Donc, on devait travailler avec une résolution inférieure. Donc tout le montage elle a été fait avec sa résolution inférieure qu'on appelait offline. Et après, quand on devait faire la finalisation, on allait dans d'autres logiciels qui s'appelaient IFR, Flame, etc., pour faire le montage avec la résolution 2K supérieure, la résolution qu'on allait voir dans les salles de cinéma.
Oui. Donc, les étapes de votre parcours ont franchi ces différents moments d'évolution du travail
et oui.
des supports de ce sur quoi vous travaillez.
Exactement. Et c'est ça que je raconte. J'ai dit, on est dans une époque où la technologie fait qu'on bouge tout le temps. On ne peut pas résister. Donc, dans mon expérience, là, à l'époque de la montage, quand j'ai vu, il y avait vraiment la plupart des monteurs qui disaient « Le Havre n'est pas bon. C'est horrible. » Donc, ils ont résisté. Alors, qui a resté dans le marché? Qui a resté travaillant avec le montage? C'est ceux qui ont été ouverts et dit « Bon, c'est la vie. Je vais tout réapprendre. Je vais commencer de zéro. »
Alors, ça peut nous renvoyer à une question concernant les possibilités qui sont offertes aux jeunes cinéastes brésiliens de formation, au moins à cette époque-là, si ce n'est... Après, on verra aujourd'hui s'il y a eu une évolution par rapport à la formation.
Ah oui, ça c'est sûr.
Des jeunes cinéastes.
Ah oui, je suis jalouse, franchement. Quand j'étais à la fac, et aujourd'hui, je suis complètement jalouse. Parce que à l'époque, j'étais dans une fac privée, chère, hein? Mais par exemple, quand on a pris la moviole, il y avait une table de montage, et c'est juste les profs qui nous montraient. On avait le droit de toucher un petit peu, et c'est tout. Pour les sons, hein? Les sons, ils montraient les photos, il n'y avait pas la machine de son. Pour, je ne sais pas, c'est le trucage qu'on parle en français.
Oui.
Le trucage, on apprenait comme ça, en photo. Aujourd'hui, avec un ordinateur et un programme After Effects, etc., on peut les faire. Donc, c'est dans ce sens que j'ai dit. À mon époque, ce n'était pas du tout comme ça. Et comme je disais, il y avait 3 facs de cinéma. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a 200. Donc, et ça révèle aussi la quantité de production qu'on avait. Donc, en 1992, comme je disais, il y avait 3-4 qui sortaient comme ça. Dans les années 2000, on avait 200-300.
Ce qui ne peut que favoriser la vitalité du cinéma brésilien.
Bien sûr, et tous les talents, et tous les gens qui voulaient travailler avec le cinéma.
Pendant toute une période, il y a des gens qui n'ont pas eu accès à ce moyen d'expression.
Non.
Parce que les formations n'existaient pas ou parce qu'elles n'étaient pas d'une qualité suffisante pour qu'ensuite l'originalité de chacun des cinéastes potentiels puisse se développer.
Parce que, donc, déjà, si on voulait travailler, il fallait travailler avec les cinémas publicitaires.
Oui, déjà.
Déjà.
Hein? Idéologiquement, vous pouvez ne pas être d'accord.
Non, mais bon, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris tout ce que je sais aujourd'hui, ça vient de cette époque. Parce que on devait donner notre vie. C'est ça la vérité. J'ai travaillé tout le temps. Tout le temps. Je n'avais pas de petits copains. Mes amis, c'était les amis qui travaillaient avec moi. Donc, dans la post-production, on n'était pas beaucoup de femmes. C'était que 90% c'était des hommes. Avoir envie. Mais ça a changé beaucoup. Ça a changé beaucoup. Et c'est triste, c'est vraiment triste aujourd'hui qu'on a un gouvernement qui est en train de détruire beaucoup de choses et qu'on a évolué.
Oui, ouais, bah c'est là que je voulais en venir. Il y a eu une période donc où les outils ont existé de formation pour les futurs cinéastes et tout ça. Est-ce qu'ils ont pu s'exprimer ensuite par rapport aux difficultés de tournage, de production d'abord, de distribution? Est-ce que tous ces jeunes qui se sont formés pendant la période où le cinéma retrouvait une place dans la société brésilienne, est-ce qu'ils ont pu poursuivre leur projet en ce qui concernait donc ce que je disais, la production et la distribution?
Beaucoup de choses ont se passé. Comme je vais dire, Fernando Collor de Mello, en 1992, à cause des dettes, bon, à cause des dettes, on est entre guillemets. Il y a Tué, donc Imbra Fiumi, qui c'était comme la CNC française. Il y a Tué, le ministère de la Culture. Et donc c'était vraiment ce qui faisait le cinéma, c'était des gens qui venaient déjà du cinéma, qui avaient des familles qui étaient du cinéma. Et donc petit à petit, le cinéma a trouvé sa place. Et du coup, je ne me rappelle plus en quelle année exactement, mais c'était encore dans les années 90, mais plutôt à la fin, il y a eu la création d'Encine, qui c'est l'agence d'aujourd'hui, né, agence qui va faire, contrôler les règlements et les financements. Mais il y a eu beaucoup de travail, parce que les gens qui étaient là, c'était des gens vraiment liés fortement au cinéma, tout le monde. Il y avait beaucoup de gens dans l'agence de cinéma qui étaient peut-être des réalisateurs, des monteurs. Il y avait vraiment une force comme ça. Et par rapport à la distribution, donc dans les années 92, il y avait un problème. Né? Donc si on voulait mettre un best-seller, né, ou les films du moment, ou Spider-Man, les distributeurs, ils disaient, OK, tu vas les faire, mais il faut acheter avec ces films, encore 30 titres différents. Donc, il n'y avait pas de place pour le cinéma brésilien. Il n'y avait pas de place. Donc, c'était déjà une grande lutte, oui, né, que... approuver les lois, né, pour dire qu'il devait avoir un minimum des sciences du cinéma brésilien dans la salle de cinéma. Et c'était une lutte aussi parce que la population brésilienne était habituée à cette époque-là, exactement à cette époque-là, à penser que le cinéma brésilien, c'était des pornographies. Parce qu'on a eu un genre de cinéma qu'on appelle porno chanchado, qui était des comédies un peu érotiques. Donc, la lecture de tout le monde, c'était que les films brésiliens avaient des sexes, et c'est tout. Donc, il fallait déjà casser cette image du cinéma brésilien. Donc, il y avait beaucoup de choses à travailler. Donc, déjà, casser cette image pour le public brésilien, trouver une place dans la salle de cinéma, né, pour les gens voir les films brésiliens, et conquérir, né, conquérir son espace de culture, né, de parler de nous, comment on est, de raconter un film, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué pendant les festivals, il y a une façon de raconter qui ne sait pas l'école hollywoodienne. Né, l'introduction, le développement, etc. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on était habitué. Donc, il fallait créer aussi...
Il fallait reconquérir une culture cinématographique...
Tout à fait, c'est ça.
...pour le public brésilien.
En plus de toutes les autres difficultés financières, d'équipement, d'endroits, etc.
Et cette reconquête s'est effectuée?
Oui, oui. Aujourd'hui, à moi, dans mon environnement... c'est normal aller au cinéma voir des films brésiliens. C'est normal. Mais quand j'avais 20 ans, ce n'était pas normal. Donc, quand on est allé au cinéma, normalement, pour voir un film brésilien qui était l'affiche de l'année, c'était une salle de quoi, 200 places, et ça durait une semaine, deux semaines. Si c'était un grand film, un mois, mais pas plus.
Vous pouvez nous donner une idée du nombre de films qui sont produits par an au Brésil à l'heure actuelle?
À l'heure actuelle, c'est un peu compliqué. Justement, comme je disais, à cause du gouvernement Bolsonaro, il y avait beaucoup de choses qui étaient, on va dire, initiées ou en processus, qui étaient coupées. Mais jusqu'avant, je pense qu'on était 300 films par an. Documentaires, je ne sais pas vous dire, parce que documentaires, c'est énorme, la quantité.
Je parlais de films de fiction.
Des films de fiction, on avait beaucoup, mais vraiment beaucoup.
Parce que là, si j'ai bien compris ce que vous venez de nous dire, donc il y a eu une période très difficile sur le plan économique pour le Brésil. Il y a eu des restrictions de crédit, en particulier sur tout ce qui concernait la culture. Puis ensuite, il y a eu une reconquête par le cinéma, avec une augmentation de la production et l'acquisition par le public de cette culture cinématographique qu'il avait perdu de vue. Mais avec l'arrivée du gouvernement actuel, il y a eu cet élan s'est vu freiner.
Oui. Par exemple, on a vu hier un film de Kleber Mendonça. Et lui, il est un activiste. Donc, en 2016, quand il y a eu la destitution de Dilma Rousseff, il a présenté Aquarius, son film précédent, à Cannes, et avec déjà tous les acteurs et l'équipe qui étaient là, avec les affiches, né, en disant, il y avait une phrase qu'on disait, Eli non, c'était pas lui. Né, parce qu'on savait.
En parlant du chef de l'État.
Exactement. On savait déjà que c'était un coup d'État et que c'est lui qui pouvait prendre sa place, c'était extrême droite. Et que si c'était quelqu'un d'extrême droite, on pouvait oublier. Mmh. Et c'est vrai, par exemple, un exemple très compliqué. La Cinémathèque brésilienne. Donc, à la Cinémathèque, elle est à São Paulo. Un endroit magnifique, avec beaucoup d'événements. Ils font des restaurations des films. Ils sont très réputés pour ce travail de restauration des films anciens. Et il y a toute l'histoire du cinéma brésilien là-dedans. Et finalement, pendant 6 mois, les gens n'étaient pas payés. Mais c'est tellement des gens passionnés dans le cinéma qu'ils ont travaillé quand même. Tu imagines, tu travailles 6 mois sans avoir ton salaire. C'est important, tu ne dois pas y tes comptes.
À côté, il faut vivre.
Il faut vivre. Mais ils ont résisté. Et on a perdu des films, des bobines, pour mauvaise conservation. Parce qu'en même temps qu'il a coupé les salaires, il a coupé aussi
les moyens
pour conserver les films. Donc, et c'est une force qui est venue pour détruire.
Il y a des gens il y a des réalisateurs qui se sont expatriés pour pouvoir travailler à l'extérieur du Brésil ou ça a vraiment été
Non, je pense que pas cette époque-là, pas maintenant parce que on a eu une certaine peur parce que à l'époque de la dictature au Brésil, elle était dure et on avait peur que ça pouvait être reproduit avec les gouvernements actuels.
Oui.
Mais elle n'est pas arrivée parce qu'aujourd'hui c'est pas possible. Aujourd'hui, n'importe qui, il est en portable, on peut filmer. Donc, il ne peut pas être autoritaire comme il y a eu des autorités avant. Donc, même qu'il ait envie de couper plusieurs choses, il y a moins de pouvoir qu'avant. Donc, et au Brésil, en fait, le président, il ne peut pas donner les ordres. Il dépend aussi de tous les gouverneurs des États.
Oui.
Donc, ça nous a aidés.
Donc, il y a des États qui étaient plus favorables à la création cinématographique que d'autres.
Oui.
Ce qui a permis à certains réalisateurs de continuer à faire leur travail et à proposer des films au public.
Un peu ça, oui. On pourrait dire ça aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui ont fermé la boîte. Aussi. Qu'il y avait beaucoup, chaque réalisateur a sa boîte, un peu comme ça. Donc, il y avait beaucoup de boîtes de cinéma qui étaient fermées. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu continuer, mais qui n'ont pas désisté, qui attendent qui changent les gouvernements pour reprendre et continuer. Parce que justement, comme le marché il a grandi, beaucoup de boîtes de production à naître, mais avec les gouvernements, ils ont fermé. Donc, la production elle a diminué, mais je ne pense pas qu'on était obligé à partir. On pouvait les faire. Mais il fallait avoir les moyens ou trouver une façon un peu créative et minimaliste pour pouvoir continuer.
Flavia Vargas, vous vivez en France depuis 2009. Quand vous comparez le système français et le système du Brésil, je suppose que vous devez trouver un grand décalage.
Ah oui, c'est un autre langage déjà. Une autre façon de voir les autres... pas étapes, mais c'est un autre code.
Oui, c'est une autre façon d'envisager la création. Mais au niveau de tout ce qui entoure la création, je veux dire les aides de l'État, enfin tout ce qui se fait en France, parmi tout ce qui est fait en France pour aider la création cinématographique, est-ce qu'il y a quels sont les aspects que vous aimeriez pouvoir trouver dans votre pays, au Brésil ?
Voilà, déjà, très simple. Il fallait que le Brésil... trouver une façon d'avoir ces milieux associatifs,
oui,
qui là-bas n'existaient pas. Pas comme ici. Ici, c'est très fort. Donc déjà, ça, c'est très important, parce que ça, c'est démocratique. Mais ça amène les gens qui ont envie.
ce que vous appelez le milieu associatif, c'est tous ces circuits de ciné-club, tous ces circuits de distribution qui font que même un film qui ne va pas toucher le grand public puisse continuer à exister, permettre à son réalisateur de continuer à travailler.
Oui, oui, et même dans les associations, pas que des cinéphiles, on peut penser y faire un court-métrage.
Oui.
Avec des gens qui ne sont pas dans l'école du cinéma,
oui.
Par exemple. Donc ça, c'est très sympa, parce que ça ouvre la porte à la création. Parce que ça va rajouter, parce qu'il existe la formation classique, qu'il faut apprendre ci, ça, mais il existe aussi les spontanéités, donc ça peut faire un bon mélange. Mais aussi les financements, parce qu'au Brésil, c'est dur de trouver les financements. Je ne sais pas en France, mais j'ai la sensation que c'est moins compliqué.
Puisque donc, comme on traite par rapport à notre entretien, on avait choisi de mieux connaître votre parcours et votre expérience, en particulier lorsque vous étiez au Brésil. Aujourd'hui, où vous en êtes par rapport
Donc aujourd'hui, en fait, ma liaison avec le cinéma, ça a changé. Bon, les montages, je peux les faire parce que c'est des choses que j'aime bien. J'aime bien, elle est là dans mon cœur. Mais quand j'ai déménagé à Montpellier, c'était pour l'amour. Je suis venue aimer. Et du coup, à Montpellier, je ne pouvais pas travailler avec ce que je travaillais à São Paulo, avec la post-production. Il fallait déménager à Paris ou des pôles de cinéma. Et du coup, j'ai commencé à travailler dans une association de cinéma qui faisait un festival de cinéma lusophone et francophone. Donc, j'explique. Lusophone, c'est qui parle portugais. Et pendant 5 ans, donc, j'ai travaillé dans ces festivals. Déjà, je faisais la programmation, je faisais les relations internationales, je faisais la traduction, je faisais tout. Et c'était trop sympa. Vraiment, c'était vraiment des bons moments. J'ai commencé à travailler avec Katia Marta Maresco du Festival International du Film sur le Handicap. Je travaille avec elle maintenant, dans la programmation aussi, avec les contacts aussi, parce que le Festival International du Film sur le Handicap, il existe déjà 6 ans. On a fait 5 éditions, mais on n'a pas fait l'année dernière à cause de la pandémie. Et c'est un festival très sympa et ça me tient au cours parce que, en fait, tout d'abord, c'est un festival de cinéma. Ce n'est pas un ghetto. Et les films qu'on montre, c'est pour sensibiliser. Donc, ce n'est pas des films misérables. C'est des films qui, parfois, on ne voit même pas le handicap. Donc, mais peut-être que c'est derrière les caméras ou peut-être c'est un handicap invisible. Et c'est un festival international. Donc, c'est mon plaisir, cette année, j'ai vu plus de 2000 films. Bien sûr, quand je vois que c'est des films qui n'ont rien à voir ou qui n'ont pas sa place, je ne vais pas voir l'entier. Mais, donc, ça a changé. Mais parfois, je peux aider Katia aussi pour faire la traduction, le sous-titrage, si on doit faire quelque chose comme ça. Il y a un technicien qui fait ça. Mais je peux, par exemple, transformer les films en DCP, des choses techniques.
Donc on peut dire, au niveau de votre parcours, le point que vous avez atteint actuellement est différent de celui qui vous avait amené vers le cinéma, mais en fait vous n'avez pas coupé le cordon ombilical avec le cinéma.
Mais je ne peux pas, je ne peux pas, parce que c'est ça que je sais faire.
Oui, et je ne vous ai pas posé la question, mais vous n'êtes pas tenté un jour par réaliser ?
Non. Mon rêve, c'était toujours le montage. J'aimais beaucoup. Quand j'ai travaillé avec la publicité, une des boîtes de production que j'ai travaillé, elle était un peu rectangulaire. Et on va dire que la salle de montage, elle était dans les coins droits à la pointe. Et on était fermé. Et à chaque fois qu'on ouvrait la porte, il y avait du monde qui criait, qui parlait. C'était une agitation pas possible. Et on fermait la porte. C'était nous, là, en train de faire le montage. Et c'est ça. J'aime beaucoup la réalisation, beaucoup. mais j'aime plus le montage et la post-production.
Ben, je vous propose que ce soit la conclusion de notre entretien. Merci Flavia Vergas d'avoir accepté de nous décrire le parcours qui avait été le vôtre dans le cadre du cinéma brésilien.
Ah, merci pour l'invitation.
Merci d'avoir porté votre témoignage qui sans doute nous rapprochera encore plus des films venus de ce pays.
Tant mieux. Je suis une militante du cinéma brésilien.
Je crois qu'à travers l'entretien, on a eu l'occasion de le sentir. Merci à vous.
Merci à toi aussi.